Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. Bienvenue dans cette nouvelle émission tournée sur l'actualité du jeu vidéo. Il est 11h10, nous sommes le 9 avril 2024. C'est ma fête. Si, je vous jure que c'est ma fête, mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, on va parler de Hellblade 2 Senua's Saga. Nous parlerons de ce qui se passe actuellement chez Microsoft, aussi bien en termes de mercato que d'implémentation de l'IA et des IA absolument partout. On voyait un peu le truc venir, mais on va en parler surtout au contact de l'écosystème Xbox. Nous aurons l'occasion également de reparler un petit peu de Suicide Squad Kill de Justice League, ainsi que... Bon, on regardera quelques bandes annonces quand même, hein, de petits jeux, de petits DLC, de trucs un petit peu sympas. On parlera d'une grosse enquête au sein du studio Deck Nine, et puis il y aura du licenciaton, parce que je ne vais pas vous mentir, il y a toujours un petit peu en ce moment du licenciaton dans le jeu vidéo. À ce qui paraît, ça devait s'arrêter avec la fin de l'exercice fiscal en cours, et puis finalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, bien sûr. Je ne vous rappelle pas les titres de la semaine dernière, on en a parlé effectivement dans l'hebdo d'Origami vendredi. Vous avez bien compris que le phénomène à suivre la semaine dernière, c'était Content Warning, donc le nouveau jeu du studio derrière Totally Accurate Battle Simulator, qui en l'occurrence... avait décidé de se lancer un défi en termes de distribution, à savoir offrir le jeu sur les 24 premières heures de sa sortie. Et puisque ça a été un véritable phénomène, ça a très 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 bien marché et beaucoup de gens étaient en train de jouer à Content Warning, jeu de comique et d'horreur sorti la semaine dernière en coopération. Je pense que vous avez difficilement raté le truc. Est-ce que Origami s'y mettra? Je n'ai rien à répondre à ça parce que, comme mes collègues, je flippe même dans les jeux censés être rigolos. C'est comme ça, que voulez-vous. Les gamers étaient encore bien de sortie, hein, bien sûr, la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est bien sûr le studio Ninja Theory qui a eu droit à sa grande cuillerée de mots fleuris. En cause, justement, Hellblade 2, toujours prévu pour rappel pour le 21 mai prochain, qui fera l'objet d'un choix, d'une technique visuellement poussée à son maximum, en échange d'une présentation stabilisée à 30 fps et pas au-delà de 30 fps sur console Xbox Series, que ce soit la S ou la X. C'est la presse, et notamment la presse anglo-saxonne, qui a pu constater ça lors de récentes previews qui ont été organisées par Xbox. Des previews en gros qui s'accordent déjà sur un truc, c'est que le niveau visuel du jeu est absolument stellaire. Alors évidemment, c'est le genre d'information qui va attiser les passions un peu déroutantes, comme celle de la guerre des consoles, mais ça vient manifestement se poser comme l'une des fondations nécessaires du projet Hellblade 2 en tant qu'œuvre, évidemment très sensorielle, très tournée sur l'aspect cinématographique. S'il ne peut pas être totalement stable à plus haut framerate sur console de salon, alors autant plafonner ce framerate. Ça semble être le choix qu'a décidé de faire Ninja Theory. Parce que vraiment, l'expérience sensorielle, je vous recommande les différentes previews qui ont pu sortir cette dernière semaine, est très très mise en avant par les gens qui ont pu toucher au jeu. Pour les développeurs et pour les gens qui ont pu l'essayer, ça doit vraiment supplanter tout le reste et ça doit supplanter la course aux images par seconde. Alors évidemment, les ressentis pourront différer sur la question. Mais voilà, je pense qu'on a déjà toutes et tous fait l'expérience du bon 30 fps et du mauvais, de celui qui est vraiment stable avec un frame pacing bien dompté et de celui qui peut vous rendre fou si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué autrement qu'en 60 images par seconde. Par exemple, vraiment par exemple, celui de Bloodborne. Les previews d'ailleurs n'ont pas vraiment l'air de s'inquiéter de cette histoire de 30 fps qui est parce qu'elles ont pu essayer le jeu a priori sur Series X. Et voilà, la démo qui a été mise à disposition, elle est plutôt saluée. Ce qui semble transparaître, c'est vraiment l'avance technique et l'avance technique folle mise au service d'un type de jeu quand même qui est très spécifique et finalement pas très universel compte tenu des promesses générales, on va dire, des triple A du moment. Ça va être un jeu lent, pas très ouvert, qui va profiter justement de son côté pas très ouvert pour aller très 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 loin dans le détail, très loin jusque dans les veines des yeux dans le détail, et pour voilà offrir quelque chose de cinématique de vraiment marquant. Et c'est aussi un jeu qui, pour rappel, tient très fort à sa durée de vie très raisonnable, qui a été jusqu'ici, excusez-moi, ça me gratte, je ne sais pas pourquoi, qui a été exprimée entre 8 et 12 heures selon les manières de jouer. Et ils y tiennent pour des questions de rythme, comme ils tiennent à ces choix techniques pour des questions d'expérience. Hein. Évidemment, le studio a pu être entendu par les différents journalistes qui ont essayé le jeu récemment, et ils ont pu un petit peu définir et défendre leur approche par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs justement au fil de ces previews qu'on a appris, via celle de Polygon, que le scénariste, directeur créatif et cofondateur d'une Ninja Theory qui s'appelle Tamim Antoniades, eh bien, aurait manifestement quitté Ninja Theory par la petite porte, hein, puisque vraiment aucune déclaration n'a été faite. A priori, assez récemment, puisqu'il y a encore assez peu de temps, il était associé au projet, ou en tout cas, il communiquait sur le projet sur les réseaux sociaux. Donc, lui, il a passé 24 ans au sein de Ninja Theory, hein, puisque, pour rappel, il a vraiment donné, comment dire, il a participé à donner l'impulsion à la création du studio. C'était devenu, bien sûr, sur le premier Hellblade, l'homme fort, le visage de la licence Hellblade. Enfin, le visage de la licence Hellblade, c'est l'actrice qui incarne Senua. Et vous voyez ce que je veux dire. Et Antoniades, il était passé avant ça par plusieurs stades au sein du studio, celui de scénariste de Enslaved, et puis aussi celui de directeur créatif, scénariste, VRP, je ne me souviens plus exactement quel était son titre officiel, à propos des choix artistiques qui avaient été menés sur DMC, hein, donc sur le reboot spin-off de Devil May Cry par Ninja Theory, qui avait énormément divisé sur sa notion du cool et de ce qui, pour Ninja Theory, était associé au cool d'un point de vue visuel, d'un point de vue du ton, d'un point de vue plein de choses. Et c'était Tamim Antoniades qui en était un peu le défenseur de ce virage pris le temps de DMC. Donc il ne fait plus partie du studio, ça d'ailleurs sans ni que l'entreprise ni que Microsoft n'aient eu le besoin ou le droit d'en parler, parce que parfois il y a des types de séparation qui font que simplement voilà, on ne peut pas s'en exprimer publiquement, ce qui donne du coup désormais un projet Hellblade 2 dont la fin de production aura été portée, et ça vous donne un peu l'ambiance générale, hein, vraiment ce côté, on est sur quelque chose où on veut pousser le côté artisanal mais aussi le côté high-tech jusqu'au bout. Une équipe qui est emmenée aujourd'hui par trois directeurs techniques. On a Dan Atwell qui est le boss des environnements, on a Mark Slater-Tunstall qui lui est le boss des effets visuels, et puis David Garcia, que vous avez peut-être déjà vu au détour d'une featurette, donc d'un carnet de développeurs du jeu et du jeu précédent aussi, puisque c'est le directeur audio du jeu, et comme vous le savez, hein, et comme je le dirai à chaque fois que je pourrai, quand le premier est sorti, il était considéré comme avoir quelques années d'avance sur le reste de l'industrie en matière d'audio interactive. Donc voilà, ce sont trois boss techniques qui emmènent la fin du projet. Et voilà, il y a quand même quelque chose d'assez fort qui a l'air de se dégager de ces previews. Il y a quelque chose d'assez encourageant, si c'est votre type de jeu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les previews ont été aussi assez unanimes sur le fait que, oh là là, c'est pas un jeu pour tout le monde, ce ne sera pas un jeu pour tout le monde. Comme on l'avait senti depuis le début du développement, il n'est absolument pas question pour Hellblade 2 de se dédire, de se rendre plus universel, peut-être effectivement qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, notamment en matière de combat, et les previews reviennent là-dessus, bien sûr, mais le but n'est absolument pas de faire un jeu, on va dire, pour tout le monde et donc pour personne, non pas que ça existe, hein, des jeux beaucoup plus ouverts à une plus grande clientèle qui n'ont rien à dire, qui ont quand même quelque chose à dire, enfin, par exemple, moi, God of War, Ragnarok, ça fonctionne sur moi. Mais c'est pas les mêmes types de jeux, et le but c'est absolument pas de dire ok, le 1 était le brouillon, c'est la suite logique, et on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Hellblade 2, je le disais tout à l'heure, bien sûr, est capé, volontairement capé sur Xbox Series à 30 FPS, mais il sortira sur PC, et si votre PC est capable de le faire tourner à 60 FPS, là-bas il sera déplafonné. Voilà, vous avez toutes les informations, et comme vous voyez, c'est pas si grave en fait. Et puis bon, je pense que le studio bénéficie aussi du fait que récemment, il y a des jeux qui peut-être gagnaient à vous faire revenir sur du 30 FPS. Ça a été le cas avec Final Fantasy VII Rebirth, par exemple. Moi, par exemple, je ne suis pas particulièrement fan de la stabilité, on va dire, en termes de... Enfin, le, je ne sais pas si on va parler de frame pacing ou de frame spacing dans le cas de F7 Rebirth. J'aimerais que ce soit effectivement plus fluide et plus cinématique. Mais par exemple, pensez au le 30 FPS de Red Dead Redemption 2. Il est fantastique. Et ne me pose absolument, pour le coup, aucun problème. Donc, ouais, voilà. Pour rappel, ça sort. Attention, attention, attention. Le 21 mai prochain. Vous avez toutes les infos à propos de ce qui se passe actuellement chez Ninja Theory et de pourquoi ils se sont fait taper sur les doigts et hurler que oh là là, et regardez, soi-disant la meilleure que la plus grande console du monde, etc. On peut développer un jeu sur la console la plus puissante du monde, soi-disant, et dire oui, mais nous, en fait, on n'aime pas voir une image qui varie de 50 à 35 FPS selon les besoins et selon ce qu'on impose en termes de consommation. On préfère largement avoir un 30 FPS constant parce que nous, c'est ce qui nous emmerde le plus. Dans notre expérience, en fait, ces variations-là, elles ne sont pas acceptables. Et je le comprends tout à fait. Et j'ai très, 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 très hâte de me coller sur Hellblade 2. On va rester chez Microsoft avec un autre départ beaucoup plus notable, on va dire, pour l'univers Microsoft et l'univers Xbox. Parce que bon, Tim Anthony Hades, hein, c'est jamais que le départ du cofondateur d'un studio qui a été racheté par Microsoft en 2018, hein, et pas avant. Pour rappel, là, on est vraiment dans la division Xbox et même dans sa vieille garde. Et c'est Karim Choudhry, un grand visage de la rétrocompatibilité chez Xbox, qui était devenu ensuite l'un des chevaliers du cloud gaming là-bas, avant d'enfourcher un autre cheval, celui de l'IA adapté à l'écosystème jeux vidéo, et il a quitté Xbox, mais aussi Microsoft. C'est en tout cas ce que suggère un mémo interne qui a été capté par le site Windows Central et le journaliste Jez Corden. Donc, Karim Choudhry et Microsoft se seraient en gros séparés d'un commun accord, en tout cas d'un point de vue contractuel, mais quand même dans le cadre d'une restructuration ordonnée par Microsoft. En gros, MS a décidé d'intégrer dès à présent sa division qu'ils appellent MTech pour Emerging Tech, donc les technologies émergentes, pardon, directement à l'équipe hardware de Xbox. L'équipe qui s'occupe de travailler sur la prochaine itération de machine Xbox, car si vous avez lu qu'il n'y aurait plus de Xbox, c'est faux. Et donc, l'intégration de cette division MTech, eh bien, c'est tout un symbole, forcément. Hein. C'était une division de recherche complètement à part au sein de Microsoft. Il faut voir ça comme une espèce d'unité spéciale qui était vraiment toute dédiée à imaginer des applications concrètes de l'intelligence artificielle, hein, voire des intelligences artificielles au sein de l'univers Xbox. En gros, si Microsoft annonce qu'ils vont expérimenter l'implémentation d'un chatbot confié à l'IA pour répondre aux demandes des clients, c'est en grande... On y reviendra, rassurez-vous, on y reviendra. C'est en grande partie grâce, ou à cause, du travail de la division que présidait Karim Choudhry. Et donc l'intégration de cette division MTech au pôle hardware ne serait pas forcément un signe de perte de confiance de Microsoft hein, dans ces technologies-là. Comme vous le savez, ça investit à fond et c'est pas encore le moment de retirer ses billes. C'est même plutôt l'inverse. Le but, ce serait de accélérer vraiment, faire travailler plus étroitement les deux entités faire arriver plus vite des compagnons IA et d'autres fonctionnalités pilotées par IA dans l'écosystème Xbox. Ça peut être aussi des fonctionnalités de restauration d'image, comme le FSR, comme toutes ces connexions, enfin le RTX et tout, pas le RTX, pardon. Ça y est, j'ai oublié le nom d'une technologie de reconstruction d'image de Nvidia qu'on utilise depuis des années, le DLSS, merci beaucoup. J'étais complètement à côté de mes chaussures. Donc, voilà le but, on le comprend. Faudra pas s'étonner, par exemple, si la prochaine machine de Microsoft, elle embarque du processeur tout dédié à ses applications. Parce que je sais pas si vous comprenez un peu l'affaire, mais par exemple, dans les cartes Nvidia, vous avez des processeurs qui sont dédiés à ces opérations liées au deep learning, etc. Et là, le but, ce serait très probablement de faire rapprocher MTech et la division hardware de Microsoft dans le but de prévoir ses futurs besoins hardware dans le futur écosystème Microsoft. Et dans ce même article, Jez Corden, il affirme que Microsoft a également fondé une nouvelle équipe. Alors ça va nous intéresser, ça va intéresser des gens sur le chat, je pense. une nouvelle équipe qui serait toute dédiée à, je cite, continuer le travail de préservation du catalogue Xbox à travers les époques. Et en gros, cette équipe, selon Jess Corden encore une fois, et selon le site Windows Central, aurait des choses à annoncer lors des festivités jeux vidéo du mois de juin. Donc hein, la conférence, la grande conférence Xbox Activision Bethesda qui aura immanquablement lieu durant la même semaine que celle d'Ubisoft, que le Summer Game Fest, etc. Donc on a forcément hâte de voir cette division et Xbox de manière plus générale, d'une main nous parler de préservation de l'historique jeu vidéo de la marque, et de l'autre bah, nous expliquer que la distribution physique n'est plus leur priorité. Car vous le savez, et on le sait, il y a eu pas mal de licenciements dans cette grande charrette récente chez Xbox qui concerne justement la distribution physique. On le sait, on voit disparaître les rayons Xbox dans les magasins parce que bah, Xbox ne vend tout simplement plus en physique. Alors, les deux sujets sont intimement liés et forcément, on peut se poser la question de comment on peut espérer maintenir ce catalogue alors qu'à la base, la promesse, on va dire la coutume chez Microsoft, c'est de dire tu prends ton vieux CD, tu le mets dans le lecteur de ta console, la console s'occupe du reste, elle va authentifier ta version du jeu, elle va aller chercher la dernière version restaurée du jeu sur le store et te proposer effectivement quelque chose qui tourne par exemple à 60 FPS ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu prévois si en même temps t'es potentiellement en train de te retirer du marché physique? Non pas que ce soit impossible, mais dans l'esprit du public, c'est quand même très lié actuellement et l'un ne va pas forcément sans l'autre. Alors est-ce que Xbox, ça c'est une autre question qu'il faut se poser, est-ce que Xbox parle de la préservation comme bah, justement de cette vieille coutume et que bah, du coup le but ce sera pour cette nouvelle équipe de simplement maintenir le catalogue rétro-compatible et rétro-amélioré qui est déjà en place? Parce qu'effectivement, tu peux te dire, oh, ben là, on est en train de prendre des nouveaux virages d'un point de vue technique, etc. Et on a une nouvelle génération de machines. Et il nous faut des gens pour s'assurer que déjà ce catalogue-là reste ISO et qu'on puisse l'emmener jusqu'à la prochaine génération de machines. Ou est-ce que la division a une attribution plus grande que ça, une mission plus large que ça? Et donc, dans ce cas-là, où le but serait peut-être eh bien, d'améliorer, d'agrandir la taille de ce catalogue qui a encore des zones d'ombre, hein, ne serait-ce que sur les jeux Xbox de manière générale, mais qui en plus a devant elle maintenant, cette division, elle a devant elle un vrai défi. C'est que depuis, Activision a été intégré à l'univers Xbox. Les jeux Activision sont des jeux Xbox et pourraient effectivement faire l'objet d'un grand travail de restauration et de remise en compatibilité avec les machines actuelles. Donc ça, on ne sait absolument rien, on sait simplement en tout cas que Sarah Bond a tenu à ce que au sein de la division Xbox soit montée une nouvelle équipe qui va s'occuper de ces sujets-là. Cette équipe manifestement aurait des choses à dire en juin et on va attendre de voir bah, ce qu'elle a à dire justement. Oui, j'ai mentionné juste avant ce projet d'un chatbot intégré à l'univers Xbox et c'était un petit peu trop gros pour qu'on survole la chose sans y revenir. Donc selon les informations cette fois-ci du journaliste Tom Warren pour le site The Verge, Microsoft serait en phase actuellement de mise à l'épreuve en interne d'une sorte de chatGPT qui serait intégré à son écosystème et dont le but serait, eh bien sûr, hein, d'automatiser différentes tâches d'assistance à la clientèle. Selon les sources du journaliste, hein, il s'agirait d'un outil caractérisé avec un nom, un visage, des petites animations rigolotes et un petit clin d'œil espiègle, hein, bien sûr, pendant qu'il t'administre les meilleurs conseils et que les gens qu'il est censé remplacer s'en vont pointer au chômage. Ça, j'ai peut-être rajouté, c'est peut-être pas dans l'article directement de Tom Warren, mais ça vous permet imaginez un peu la tête que je faisais en lisant la news. Oui, bien sûr, on pense à Clippy, mais Clippy du futur. Donc, selon Tom Warren, le but serait donc de connecter cet assistant virtuel à toutes sortes de documentation interne pour lui permettre de répondre à de nombreuses requêtes clients ou même carrément de valider certaines demandes de remboursement sans forcément avoir à faire à passer en fait le dossier à un assistant humain. Tiens, j'ai tourné une petite boîte à musique à côté de moi, je sais pas si vous avez entendu, ça fait un bruit bizarre. Bref, en gros, le but serait de retirer la composante humaine du premier niveau de demande en matière de services après-vente, comme ça se fait de plus en plus, et on va pas se mentir, comme ça se fait de plus en plus, et pas forcément à succès. Tom Warren a donc posé la question au porte-parole de Microsoft, puisqu'il avait l'information, et il s'est dit, bah tiens, on va leur demander. Et eux, ils ont répondu effectivement que oui, il y avait un truc qui se préparait en ce moment. Donc, citation, « Nous testons actuellement le Xbox Support Virtual Agent, on imagine que c'est pas son nom pour la vie, bien sûr, un prototype interne de personnage animé qui peut répondre à des requêtes clients formulées via texte ou par la voix. » Donc, c'est un robot conversationnel, faut se l'imaginer comme ça, qui serait basé sur les mêmes principes de fonctionnement que le Azure AI Bot Service, qui est donc un service de Microsoft, et un service, c'est un jeu d'outils en fait, qui est déjà distribué par Microsoft à d'autres entreprises. Par exemple, Vodafone a son propre robot conversationnel pour les questions de support client, pardon, nous en France on dit assistance client, et c'est basé justement sur cet outil Azure, et le but c'est de le vendre, mais aussi peut-être de l'utiliser pour ses propres services, pour son propre écosystème, ici l'écosystème Xbox. Donc tout ça, évidemment, va venir s'inscrire dans une offensive à plus grande échelle de Microsoft sur les fonctionnalités assistées par IA. Et justement, les sources du journaliste, elles parlent d'un élan actuel qui cherche vraiment à pousser l'expérimentation par IA générative partout où c'est possible, par IA pardon, et éventuellement par IA générative partout où c'est possible. Donc Microsoft serait assez chaud pour commencer à mettre certaines de ses équipes de développement de jeux vidéo sur la création d'éléments visuel et sonore dans les jeux, sans qu'on sache bien sûr à quel point ce serait de l'assistance aux développeurs, à quel point ce serait entraîné sur uniquement des visuels maîtrisés dans leur crédit, dans l'autorisation donnée par les gens qui ont fourni ce matériel visuel sur lequel ont été entraînés les différents modèles. Ça, on ne le sait absolument pas, et on verra si Microsoft a le moindre projet pour clarifier ça. L'assurance qualité par IA, ça on a déjà parlé ici, mais de plus en plus effectivement les gros éditeurs essaient, en gros, comme vous voyez le tool assisted de speedrun, un petit peu la même chose mais pour la QA, le but étant de dire il y a plein de choses qu'on aimerait automatiser, parce que certes ils nous coûtent pas grand chose, mais ils nous coûtent quand même quelque chose, ces gens qu'on paye pour faire de la QA, et c'est un petit peu embêtant. Et également la création de PNJ, on parle beaucoup d'Ubisoft en ce moment qui a envie d'avoir des PNJ qui aussi sont basés sur une IA conversationnelle et peuvent répondre et vous répondre même si vous leur parlez depuis votre salon, etc. Mais il faut se souvenir que Microsoft également de son côté travaille sur des PNJ, on va dire assistés par IA en partenariat avec une boîte qui s'appelle InWorld. Et puis il y a la modération des échanges également pour lesquels Microsoft aimerait bien implémenter de l'IA. Il y a déjà de la modération automatique, mais là, il faudrait effectivement, pour faire... Et ces 3 trilliards, c'est combien déjà ? Bref, cette valorisation boursière, elle va pas rester où elle est toute seule. Si on veut continuer à taquiner Apple sur la valorisation boursière, on va pas commencer à mettre des petits gens qui font de la modération manuelle. Non, il faut absolument qu'on passe par de l'IA, évidemment. Et pourquoi pas, et ça l'article l'aborde également, pourquoi pas un jour également des assistants virtuels in-game qui pourraient être appelés à n'importe quel moment quand vous êtes à l'intérieur d'un jeu pour répondre à vos questions à propos du jeu en pleine partie. Bon là je vois le nombre de fois où j'ai pas lu un tuto et où ça pourrait être utile, mais vous voyez un petit peu le délire et vous voyez à quel point actuellement on veut le pousser absolument partout chez Microsoft. Chez Microsoft, on le rappelle, l'entreprise pour qui la catégorie Dungeon Crawler du Microsoft Store en français s'appelle Chenille de Donjon. Ces gens-là veulent mettre de l'IA partout et pensent que ça va vraiment améliorer le taux de service pour la clientèle. Parce que, pour rappel, ça a été traduit une fois automatiquement. Et depuis, c'est considéré comme fait. Ça a été traduit. Est-ce que c'est bien traduit ? Non. Et puis, qui va nous dire que ça a été mal traduit ? Microsoft France ? Faudrait quand même qu'on laisse encore des gens chez Microsoft France. On n'arrête pas de licencier chez eux chaque année. Voyez un petit peu la boucle du truc et la vitesse à laquelle on peut se retrouver avec Chenille de Donjon sur l'application officielle Xbox depuis tant et tant de temps. Voilà. Ça soulève des questions et on peut se dire que ça promet tout ça. Et évidemment, comme le rappelle très bien, le fameux Rareware Cadeau Sea of Thieves, pour Rare Presents Sea of Thieves, Et c'est resté, et tout ce temps, c'est resté, et ça a mis un temps fou avant d'être corrigé, si ça a été corrigé. Et comme le rappelle très bien le copain Kassim, hein, sur Frandroid, dans son article sur le sujet, il n'y a pas vraiment besoin qu'il y ait une question de traduction entre les deux pour que bah, ces dispositifs automatisés et potentiellement automatisés par IA soient parfois déjà la risée du monde du jeu vidéo. Hein. Par exemple, on a le récent lancement de Final Fantasy XIV sur Xbox. C'était un festival de joueurs et de joueuses qui étaient bannis du jeu pour avoir employé le terme « free company », ce qui désigne dans le lore du jeu les guildes de Final Fantasy XIV, mais ce que la modération automatique a pris pour énormément de gens proposant, bah, se disant en gros « disponible pour des rencontres amoureuses, free company ». Donc voilà, il y a énormément de gens qui ont été bannis comme ça par de la modération automatisée. Mais Microsoft pense effectivement que c'est le futur et qu'il faut en mettre absolument partout. Et bien sûr qu'on va, bah nous en tant que consommateurs, y gagner. Bon, pour la partie effectivement travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, on a compris où on allait avec ça. Mais il y a aussi effectivement le versant consommateur des choses. C'est ça aussi un peu la morale de tout ça. Je pense qu'il faudra pas l'oublier, il faudra retirer ça voilà, de cette grosse offensive actuellement des outils assistés par IA et notamment... sur des métiers déjà ultra précarisés comme l'assistance cliente, ou le support, quand on viendra nous dire, et j'en lis parfois dans les commentaires pour être tout à fait honnête, qu'une personne qui perd son job à cause de l'IA, c'est une personne dont le job était dépassé, ou que c'était une personne qui faisait mal son job, avec toujours cette espèce d'analogie avec le maréchal Ferrand hein, que nous portent toujours les défenseurs des IA, et notamment des IA génératives, faudra constater un truc important, c'est que les IA n'auront pas besoin de réussir correctement à faire ces jobs pour que les gens commencent à perdre leur emploi. Hein, il vient un moment où en fait le niveau d'économie réalisée, il est tel que la chute en flèche de la qualité de service, elle devient une espèce de bruit extrêmement lointain, quasiment imperceptible pour ces grosses entreprises-là, quoi. Demandez par exemple aux clients d'Electronic Arts qui délocalisent un peu plus chaque année dans des gros centres lointains, notamment en Pologne ou en Inde, etc. Dans des entreprises qui n'ont pas la documentation, qui ne connaissent pas les jeux, alors qu'il y a encore quelques années, c'était des gens qui jouaient au jeu et qui connaissaient les moindres recoins du jeu et les moindres recoins de la documentation. Demandez-leur s'ils connaissent le truc, parce que c'est les clients de ces jeux-là, ils ont vu justement ce taux de service s'effondrer. Est-ce que ça a fait s'effondrer les profits d'Electronic Arts ? Absolument pas. Donc on comprend effectivement où va Microsoft avec tous ces outils-là. Est-ce que j'ai particulièrement hâte de voir une sorte de Clippy du 8e millénaire apparaître dans mon interface Xbox ? Non. Encore une fois, j'ai pas d'Xbox. Bah non, j'ai un PC, c'est juste ça en fait. Alors, la saison 1 de Suicide Squad Kill de Justice League ne se passe pas hyper bien, voire pas bien du tout. Je préfère être clair et c'est un problème pour Rocksteady puisqu'un bon paquet de gens qui s'accrochaient encore au jeu commencent effectivement à faire un peu grise mine. Pour rappel, Suicide Squad Kill de Justice League est sorti le 2 février 2024. On a l'impression que c'était il y a 2 ans, mais c'était il y a 2 mois. Et cette saison 1, elle devait introduire donc le Joker en version jouable et avec un peu de chance, plein de nouveaux contenus pour satisfaire les fans hardcore qui s'accrochent encore au jeu. Bon spoiler, et sans les moquer, ils ne sont pas très nombreux, même après le lancement de cette nouvelle saison, qui a engendré un pic de joueurs qui lui a permis au-delà des 3000 joueurs sur Steam, le jeu ne dépasse déjà plus les 1000 joueurs simultanés en pic sur Steam. Là où les choses vont venir se compliquer, c'est pour Rocksteady et son futur, puisque non seulement cette saison n'a pas réussi l'impossible, on pouvait parler d'impossible, on en avait déjà parlé ici, hein, quand ton lancement de jeu se passe comme ça, waouh, créer une saison qui va décupler la fréquentation du jeu, c'est compliqué. Mais tu peux en tout cas essayer de solidifier cette relation avec une petite base de joueurs qui va quand même te permettre de d'avoir des chiffres qui veulent encore, on va dire, quelque chose, c'est-à-dire pas des chiffres de l'ordre de Babylon's Fall. Donc là où ça va se compliquer ici, c'est que même chez les gens qui s'accrochaient comme pas possible, la saison 1 se fait étriper et parfois de manière assez crue par les premiers croyants du projet. Donc pas de nouvelle mission d'histoire liée à l'arrivée du Joker en jeu. Un nouveau boss fight à tout casser, mais qui est une sorte de variation sur un boss fight existant, comme c'était déjà le cas dans le jeu de base entre deux boss fights. Pas de nouveau type de mission de grinding. Quelques nouveaux modificateurs, mais dont certains sont déjà pointés du doigt comme étant encore plus inintéressants ou plus déplaisants à jouer que certains des pires modificateurs qui étaient dans le jeu de base, parce que le jeu de base avait plein d'idées de modificateurs qui n'étaient pas top, en fait, qui rendaient juste tout plus, bah, plus chiant. Et puis, ben, ce personnage du Joker qui, pour être débloqué, même si vous avez joué non-stop ces deux derniers mois, eh bien, va vous demander de regrinder avec des missions sur lesquelles vous grindez en boucle depuis deux mois. Le résultat, c'est forcément un subreddit en feu et une grogne consommateur assez légitime compte tenu du fait que, bah, justement, la saison 1 avait été pas mal mise en avant, secouée un petit peu hein, devant le nez des gens pour expliquer que plus de contenu arriverait, alors que, bah non, c'est juste, on te fait faire des trucs que tu as déjà vus pour débloquer un nouveau perso et refaire des trucs que tu as déjà vus avec un nouveau perso. Il y avait une espèce de paravent par l'intermédiaire de cette nouvelle map, on va dire une version alternative de Metropolis, qui était très bien mis en avant dans les bandes annonces et qui laissait penser, qui laissait les joueurs et les joueuses espérer que les choses soient un petit peu différentes, ou en tout cas que la map mérite de réinvestir du temps de jeu là-dedans. Mais ça a été quand même assez globalement pointé du doigt comme étant de l'esbrouffe de la véritable, si bien qu'en fait, bah, la question qui est arrivée quelques jours seulement après la sortie du Joker et donc de cette saison, c'est « Ok, mais il y a quoi là-dedans ? » Il y a certains personnages qui ont sa propre prise en main, qui ont ses propres évolutions, etc. Mais qu'on va utiliser pour exactement la même chose qu'avant. Donc le souci de variété, il n'est absolument pas réglé dans le jeu. On se doute bien sûr que Warner avait signé avec Rocksteady pour plus d'une saison. Hein. Généralement, ce genre de projet, en fait, l'éditeur met directement du blé sur la table et précommande d'avance plusieurs saisons. Mais en gros, il faut se dire qu'à partir de là, eh bien, Rocksteady et Suicide Squad Kill the Justice League avaient raté un train et ont raté le deuxième. À partir de là, le jeu et le destin du jeu semblent inexorablement scellés. Et pourtant, c'est aussi ça, les limbes des jeux-services. Rocksteady vient de publier une feuille de route dans laquelle ils expliquent qu'ils vont s'échiner à rendre justement la saison un peu plus agréable à jouer. Elle va pas du tout apporter plus de contenu, parce que c'est pas sur leur feuille de route, mais ils vont bouger les potards, un petit peu d'équilibrage par-ci, un peu plus d'XP par-là. Voilà, vous voyez ce petit moment, effectivement, où les développeurs n'ont plus que quelques boutons à actionner, et vont bouger, vont toucher à des pourcentages, vont toucher au drop rate du loot, à ce genre de choses, simplement pour, eh bien, pour que la fâcherie avec leurs premiers fans s'arrête, ou en tout cas que tout ça, ça désescalade, que ça descende un petit peu, que ça se calme, et qu'ils puissent ensemble réétablir, on va dire, un dialogue un peu sain pour la distribution des prochaines saisons. Il y a un truc que le studio ne s'est pas résolu à faire, et très honnêtement, je suis le premier surpris. Je pensais qu'ils tireraient la sonnette d'alarme, ou plutôt qu'ils ouvriraient le parachute d'urgence en annonçant, eh bien, la distribution, le déblocage automatique du Joker pour tout le monde. Parce que cette saison de contenu, elle était bien sûr gratuite, mais il y a beaucoup de bouche à oreille qui s'est fait sur le simple fait, eh bien, que, tu voulais jouer le Joker ? Ah, bah, désolé, va falloir que tu regrindes une, je sais plus, c'est plusieurs dizaines, je sais plus si c'est 20 ou 30 missions, et que tu fasses monter ton niveau de peur à tel niveau, le niveau de peur. Et en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont juste écouté les gens autour d'eux et qui se sont dit, bah, ok, j'y vais pas. Moi, je pensais sincèrement que je pourrais lancer la saison directement commencer à jouer avec ce personnage plutôt qu'avoir un nouveau à grinder. Donc je ne serais pas surpris effectivement que dans les temps à venir, on vienne tirer justement cette petite corde de sécurité et qu'on annonce que c'est bon, il est débloqué pour tout le monde, vous n'avez pas besoin de grinder, venez au moins un peu jouer, ce sera déjà pas mal, parce que bah, forcément, là je disais qu'on était passé de 3000 joueurs à 1000 joueurs, mais c'est un compte qui descend, c'est un compte qui va s'éroder très très vite, et il va falloir très très vite du coup que le studio embraye sur la communication de la saison 2, promettent des choses qu'ils ont déjà promis, en espérant que cette fois, il y en ait un petit peu plus dedans, etc. Il faut surtout espérer eh bien, que ce contrat entre Warner et Rocksteady ne court pas sur 5, 6, 7 saisons. J'imagine que c'est plutôt de l'ordre de 3 ou 4 saisons. Après quoi, bon, bah, il est assez clair que Warner retirera ses billes, ou en tout cas ne rempilera pas, n'investira pas de l'argent dans une espèce de grande réforme du jeu, d'une grande rénovation du jeu, parce qu'il en faudrait des choses. C'est pas uniquement de contenu dont le jeu avait besoin, c'est de beaucoup plus de choses que ça. Et puis on verra ensuite de quoi sera fait, bien sûr, le destin de Suicide Squad, qui peut effectivement se refaire une petite santé à un moment ou à un autre, j'imagine par des abonnements ou par une nouvelle console ou par des bundles, j'en sais rien. Mais en revanche, le destin du studio, là où ça va être intéressant, c'est qu'on sait qu'à côté, eh bien, c'est pas le seul projet en cours, hein. Très généralement, vous doutez bien que à la fin de la prod d'un jeu comme Suicide Squad, qui est de Justice League, on envoie un maximum de gens sur un autre truc qui était en pré-prod, soit en début de prod, qui sera peut-être pas un jeu service, qui sera peut-être toujours un jeu à licence et qui sera peut-être plus proche de l'esprit Rocksteady comme l'imaginaient les gens. Donc voilà, il faudra voir un petit peu de quoi est fait le futur de tout ça, quoi. Ça va vous coûter 2 euros, pas plus, juste 2 euros. Et le trailer coûte 55 secondes de votre temps. Mais il y a des chances qu'à l'issue de cette bande-annonce, vous ayez envie de relancer Crypt of the NecroDancer. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est une collab entre Crypt of the NecroDancer et Hatsune Miku, avec deux compositions originales par Danny Baranowski, dans le délire Vocaloid, etc. Oui, et ça coûte 2 euros, et il me semble que c'est distribué dès à présent, hein, cette histoire. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à retomber dans ce jeu, qu'ils ont juste besoin d'une petite pichenette. Parfait. Retour au PC Gaming Show de l'année 2019 peut-être ? Vous vous souvenez de MechWarrior 5 ?
You five are the final vestiges of our brood, who some deem might one day be of value to the clan. I am not one of them. To me, you five are the excrement of a failed semi-aborted batch from my bloodhouse. Far from the pinnacle of humanity demanded by the clan's geneticist that spawned you! Just show me what those Straviks on Lunderholm taught you.
Commencing a scan of the area.
Show me what you know of being a real true-born mech warrior. And prove yourselves worthy of the name and heritage you carry with you. Prepare for mech combat.
Attendez une seconde, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il n'était pas déjà sorti ce jeu ? Eh bien si, mais figurez-vous que MechWarrior 5, auquel beaucoup de gens reprochaient l'absence d'une véritable campagne solo, eh bien ce spin-off de lui-même et devient MechWarrior 5 Clans. Et à partir de là, eh bien, va vous proposer une campagne scénarisée, comme vous avez pu le voir, avec ce général plein de cicatrices récitant tous les éléments de langage d'un jeu absolument apolitique. Et donc MechWarrior 5 Clan a déjà quelques gameplay previews qui ont pu être menées par certains médias, notamment IGN qui a pu y jouer, mais ils ne sont pas les seuls. Si, comme moi, vous manquiez un petit peu effectivement de liant scénaristique dans MechWarrior 5, qui était plutôt en fait un jeu tourné pour le coup vers le bac à sable, vraiment la constitution, le classique du jeu où vous montez une équipe de mercenaires et donc de véhicules dans le but de remplir toujours des missions plus compliquées et puis récupérer du loot de meilleure qualité et ainsi de suite et ainsi de suite. Et bien avec Clans, ils veulent changer un petit peu les choses. Voilà, c'est à prévoir dans les temps à venir. c'est toujours donc fait par Piranha, à ne pas confondre avec Piranha Bytes. Hein. Piranha Bytes, c'est les gens qui ont fait Gothic, qui ont fait LX1, LX2, et dont le destin est un petit peu en balance actuellement. C'est Piranha, ils s'en occupent, Piranha Games. Et donc voilà, j'ai pas cité Reason, je suis désolé pour les Reasonos. Et voilà, vous avez un petit peu l'idée du truc. Et puis je voulais vous diffuser une troisième bande-annonce avant qu'on repasse à la suite. Elle aussi, une bande-annonce extrêmement courte pour un micro-jeu, un mini-jeu. Je crois que le développeur lui-même appelle ça un mini-jeu. Le développeur de Lunark, Johan Vinet, a annoncé récemment Castaway. Et c'est très 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 mignon. Alors, qu'on soit très clair, hein, on est sur un jeu, pour le coup, véritablement hommage, bien sûr. Le jeu est prévu sur PC. Je ne sais même pas si Johan Vinet compte en faire commerce, vous en doutez bien. C'est un hommage très très direct à Link's Awakening. Vous avez peut-être une dalle de vieux Zelda, Zelda où les armes ne cassent pas, Zelda où on n'est pas obligé de faire de fabriquer des buggies. Le jeu vidéo, c'était mieux avant tout ça. Nous entrons dans l'enfer du licenciaton et des fermetures de studios. Je suis désolé, c'est un peu pour ça que j'avais mis les bandes annonces juste avant, c'était histoire que vous repreniez un petit peu d'air. Alors, est-ce que c'est le licenciaton ou est-ce qu'on entre au licenciastan ? Mais bon, en gros, là-bas, les journées se suivent et se ressemblent assez horriblement. Donc, la semaine dernière, quelques heures après avoir parlé justement dans cette émission de la séparation de Relic et de Sega, eh bien, Relic licencié déjà. En gros, hein, l'entreprise canadienne que vous connaissez pour Company of Heroes, pour Dawn of War ou pour Age of Empires 4, hein, puisque c'est eux qui l'avaient développé, ils ont communiqué très récemment la nouvelle publiquement, après l'avoir communiqué en interne, bien sûr, fort heureusement, via un post LinkedIn. Bon, bah après, chacun choisit son médium pour ce genre de choses. Donc, loin, en fait, de l'image d'une entreprise saine et sauve, maintenant qu'elle s'est distanciée de Sega, eh bien, c'est l'image d'un autre Relic qui apparaît, et c'est, voilà, celui qui va probablement tenter de se cacher derrière l'excuse, ou en tout cas, la justification du moindre mal. Donc, en gros, une entreprise qui licencie une semaine après s'être séparée de Sega, je cite, « dans le but de donner à Relic les meilleures chances de survie dans un secteur de plus en plus volatile ». C'est une histoire que vous connaissez un petit peu par cœur désormais, c'est une phrase qu'on pourrait effectivement réciter à chaque fois. Relic avait certainement trouvé des fonds privés pour redevenir sa propre entité, mais pas sans accepter par avance cet allègement de voilure dont ils n'ont finalement prévenu les salariés qu'après le divorce avec Sega. Donc selon le producteur Robin Smale, donc sur son propre compte LinkedIn là pour le coup, ce serait 41 personnes qui sont visées par cette procédure de licenciement, en plus des 121 personnes qui avaient été licenciées l'an dernier à environ la même époque. Donc dans le communiqué officiel du studio, le studio confirme que cette quarantaine de personnes, elle n'est absolument pas visée pour des questions de performance, mais uniquement pour des raisons économiques. C'est une manière, à mon sens, pour eux de rappeler au reste de l'industrie que ce sont des gens compétents dont les profils méritent d'être envisagés pour de l'embauche. Et le studio dit vouloir également faire tout son possible pour accompagner ses partants avec les indemnités, les avantages sociaux maintenus, éventuellement des solutions de reclassement si possible. Mais une fois de plus, on retombe à nouveau sur nos pattes quand un studio vient en fait annoncer son divorce d'avec une grosse boîte pour se protéger des grandes restructurations que vous avez pu voir chez Embracer, chez Sega et dans tant d'autres entreprises. Il va falloir s'y habituer, en fait, c'est rarement à masse salariale égale. On l'a encore vu la semaine dernière avec Gearbox, qui licencie pour plaire à son nouvel acquéreur, pour se faire plus fin pour son nouvel acquéreur, Take-Two. C'est vraiment un truc à garder en tête, parce que les séparations d'entreprises, on risque d'en voir pas mal d'autres qui vont arriver là dans les prochains mois, dans les prochaines années, après justement cette frénésie de consolidation dans le jeu vidéo. Oui, tu as trouvé des fonds privés pour ton entreprise, oui, tu as réussi à monter une holding grâce à un petit fonds d'investissement, etc. Mais non, bien sûr que non, le fonds d'investissement n'a pas dit « Vous êtes combien ? bah c'est bon. Il t'a dit, vous êtes combien? Vous pouvez descendre à combien? Et c'est ça aussi la réalité de ces boîtes-là qui essaient de s'extraire d'une influence financière extrêmement néfaste et qui, de l'autre côté, vont retrouver quand même des marqueurs assez connus. Voilà, des gens qui vont leur demander bah, de perdre un petit peu de poids si ils veulent être sauvés. Ce qui nous manque désormais, c'est un sens clair de combien de personnes sont encore chez Relic à l'heure actuelle. Plusieurs sources disaient qu'en gros, le studio vivotait autour des 350 personnes il y a quelques années. Et en 2024, bah là, on fait les comptes, le studio pèse presque 200 personnes de moins. Donc, clairement, le Relic que vous voyez aujourd'hui, le Relic que vous verrez demain, certes n'a pas fermé, mais aura une force de frappe qui sera très, très, très différente et une capacité à accumuler les projets qui sera très, très, très différente dans un écosystème qu'on sait être extrêmement, compliqué en ce moment pour les studios, où ils seront très probablement aussi amenés à retravailler avec Sega. Hein. C'est pas impossible. D'ailleurs, par exemple, la semaine dernière, c'était aussi la semaine durant laquelle le PDG de Saber Interactive, qui vient d'arracher une partie du groupe Saber des mains d'Embracer pour que cette folie s'arrête quelque part, eh bien voilà, on est venu lui tendre le micro un petit peu. Ok, d'accord, t'as récupéré un petit peu le contrôle des choses. On se doute bien qu'à un moment ou un autre, toi aussi, tu vas passer par la case licenciement, parce que bien sûr, les gens qui t'ont accompagné financièrement, ils vont vouloir un petit sacrifice, bien sûr. Mais qu'est-ce que t'as à dire à propos d'Embracer? Et Matthew Karch, je crois, c'est le patron de Saber Interactive. Et là, ça commence déjà à arrondir les angles, ça commence déjà à faire des claquettes, ça commence déjà à vous expliquer « Ah, il faut pas en vouloir Embracer, c'est très compliqué, tout ça, ils ont essayé des choses, etc. » Bien sûr qu'il va vous dire ça, Matthew Karch. Il a tellement de projets sur lesquels Saber Interactive eh bien, va travailler pour Embracer. Embracer va être demain le partenaire en édition pour certains studios de chez Saber, tout comme, eh ben, même dans des plus petites structures, Toys for Bob, anciennement Activision, a réussi à récupérer très chèrement une sorte d'indépendance, mais va pas dire on emmerde Activision, fuck Microsoft. Non, eux ce qu'ils veulent c'est bah, signer un contrat d'édition pour espérer pouvoir refaire un Spyro ou refaire un Crash. Donc forcément ces déclarations, il faut aussi les voir un petit peu dans l'écosystème dans lequel elles s'inscrivent, à savoir des gens qui oui se séparent leurs comptes financiers, mais vont très probablement, pour la plupart, continuer à bosser ensemble. Ça continue, et cette fois-ci, eh bien, on est un petit peu plus proche de chez nous. C'est une drôle de nouvelle dans le paysage du jeu vidéo français, qui est tombée la semaine dernière. Et quand je dis drôle, c'est pas quand on rigole. Vous savez, c'est cette sensation un peu bizarre dans le ventre, un peu... Voilà. Tiens, on a l'impression que, bah, que ça allait. En l'occurrence, il s'agit de Miklo. Miklo, donc le studio derrière la série des Out There, ainsi que Sigma Theory. Le studio ferme ses portes pour de bon. Pour beaucoup, Miklo, c'était le studio du premier Out There, et pour certains, c'était même le studio de Fibre Tigre, mais pas du tout. En fait, Out There, comme Sigma Theory, ce sont des collaborations entre les deux entités, Fibre d'un côté, à l'écriture et à quelques autres choses, et puis de l'autre, bien sûr, le studio Miklo, qui a commencé, pour rappel, comme un studio unipersonnel, avant d'entamer ce qu'on appelle une croissance dite organique. Alors, on parlera un petit peu de comment s'est faite la croissance du studio. Et sachant qu'il y a eu en fait hein, plusieurs suites à Out There par Miklo, et en tout 6 jeux développés par le studio en un peu moins de 15 ans, je crois 14 ou 13 ans à vérifier, je sais plus. Donc l'année dernière, en fait, Out There, enfin, non pas Out There, mais Miklo, avait été racheté par une entreprise qui s'appelle Supernova Capital. Déjà, tu sais que t'es dans la merde avec un nom pareil, mais tant pis. Donc c'était un jeune fonds d'investissement britannique qui devait, à l'époque, garantir à Miklo une nouvelle croissance, un peu moins organique que celle-ci, de nouvelles embauches, bref, un nouvel essor. Et là, je paraphrase Michael Pfeffer, donc PDG de Miklo, il disait ça à l'époque du rachat, en février 2023. Un an plus tard, toutes les cordes des différentes bourses du jeu vidéo se resserrent de manière un peu mécanique sur une avalanche de cette fameuse crise qui en est une pour certains, mais vraiment pas pour d'autres. Et puis, bah voilà, on se retrouve effectivement avec une nouvelle page de l'histoire de Miklo qui est en fait la dernière. Le studio a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer sa fermeture complète et immédiate. Il remercie les nombreuses personnes qui ont collaboré sur ses productions et notamment les freelances. Parce que c'est vrai que Miklo, comme beaucoup, beaucoup de petits studios, c'était pas que des gens sous contrat pérenne, mais aussi toute une petite galaxie de freelance, ce qui donne en tout une trentaine de personnes impactées par cette fermeture, soit parce qu'elles ont perdu leur contrat, leur CDI, soit parce qu'elles ont perdu eh bien, un commanditaire pour des missions plus ou moins régulières. Et voilà, donc Miklo, en l'occurrence, c'est terminé. J'insère ça ici avant qu'on ne parle de Deck Nine, mais Ubisoft, et notamment, enfin, en l'occurrence, Ubisoft Corée, a annoncé récemment eh bien, que ses bureaux locaux en Corée fermaient le 30 avril prochain. Ils promettent que le support des jeux, notamment bah, des jeux e-sport qui marchent en Corée de chez Ubisoft, sera maintenu en coréen, parce que c'est un enjeu forcément extrêmement fort quand vous fermez vos bureaux locaux. Et puis ensuite, eh bien, on imagine que, comme ça a pu être le cas effectivement pour d'autres bureaux Ubisoft, vous savez, les bureaux commerciaux Ubisoft ont pas mal fermé en Italie, au Benelux, et il y a eu d'autres occurrences dans d'autres endroits du monde. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la manière de distribuer les jeux d'un point de vue local, elle va être outsourcée, elle va être confiée à une tierce partie. Playon, par exemple, qui pour le coup est un éditeur et un distributeur affilié à Embracer, anciennement Core Media, eh bien, Playon a déjà pris et va assister Ubisoft sur la distribution des jeux, notamment au Benelux. Donc c'est peut-être par là que ça se passera désormais pour Ubisoft, et toute la question sera de savoir avec quel prestataire Ubisoft va décider eh bien, de continuer, ou non, mais probablement de continuer, à localiser ces jeux en coréen, ces jeux à sortir. Par exemple, on sait que Star Wars Outlaws, dont on comprend qu'il est censé être quand même le gros morceau de fin d'année, et Star Wars Outlaws, si je dis pas de bêtises, ouah, je suis un peu perdu maintenant, a déjà une localisation coréenne de prévu. Mais la question, c'est comment effectivement maintenir ce service sur le temps long. Et bien sûr, sur le chat, vous avez envie de répondre, bah, ils n'ont qu'à utiliser de l'IA, comme tout le monde. Et bon, bah, là, pour l'instant, l'annonce vient de tomber et on ne sait absolument pas de quoi il retournera pour la distribution en Corée. Sur le chat, je lis, est-ce qu'il n'avait pas... Papa Guillemot n'avait pas dit qu'il ne licencierait pas. Il n'a pas dit ça. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de licenciement dans les studios. Et ça, ce n'est pas des studios, c'est des bureaux, effectivement. L'attrition sera naturelle dans les studios, mais les bureaux commerciaux, qui permettent toujours de dire « Rassurez-vous, les jeux vont bien », parce qu'une immense partie du public n'est intéressée que par cette partie-là, eh bien, ça fonctionne différemment. Après, bon, l'attrition naturelle, c'est autre chose aussi, hein, ne pas renouveler les contrats, ne pas réembaucher les partants. Il me semble que pour l'instant, officiellement, il n'existe pas de licenciement de masse. Après, c'est, voilà, c'est une question de licenciement de masse ou de fermeture de studio. Ça, bien sûr, Ubisoft ne communiquera pas dessus. Et ne veut probablement pas en fermer, peut-être en vendre. On est parti pour le gros morceau, l'enquête chez Deck Nine par Rebecca Valentine, journaliste chez IGN. Donc le sujet, là, celui-ci est vaste et il est très détaillé dans l'article pour qu'on en fasse vraiment un tour complet, sans que ça revienne grosso modo à vraiment piller le travail de la journaliste. Donc vraiment, je vais essayer de faire synthétique, et puis ensuite je vous inviterai à aller lire l'article parce qu'il le vaut vraiment, et parce que c'est une des plus grandes enquêtrices du jeu vidéo actuel, et Dieu sait qu'on en manque, notamment sur le territoire anglo-saxon. Ça vaut ici aussi parce qu'on manque de moyens, parce que plein de choses, parce qu'on n'a pas les mêmes accès aux studios, aux développeurs, etc. Mais Rebecca Valentine fait effectivement un immense travail chez IGN. Et donc, elle a sorti un gros papier donc, sur le climat de travail et les soucis de management au sein de Deck Nine Games, un studio qui a récemment plusieurs fois licencié, ce qui a dû permettre effectivement de délier certaines langues et également tout simplement d'accéder à des ex-employés qui n'avaient peut-être pas forcément envie de parler tant qu'ils étaient à l'intérieur du studio. L'entreprise américaine, donc Deck Nine Games, c'est celle qui a repris les rênes de la série Life is Strange. Le dernier Life is Strange, pardon, note, c'est le 2. Et eux avaient déjà fait, Deck Nine avait déjà fait Before the Storm avant ça. Et en gros, la boîte est pointée du doigt par une quinzaine de personnes employées et ex-employées par le studio pour des très nombreux faits de harcèlement moral et sexuel, d'intimidation par des cadres. Plus globalement pour ces gros problèmes de direction qui font que Deck Nine aurait laissé faire malgré l'accumulation des plaintes. Une histoire qu'on commence à, bah pareil, à voir se répéter constamment dans les sorties et dans les articles. Et donc ils ont fait bien sûr Before the Storm, ils ont fait True Colors Deck 9 Games. Ça commence donc assez soft à la hauteur de ce que vous allez lire ensuite. Ça commence avec un manager colérique et un peu harcelant dont on décide simplement d'éloigner le bureau du reste des équipes, dans le même bâtiment mais un peu plus loin, comme ça on l'entend moins crier. Et puis plus l'article avance, plus ça va encore être plus directement en contradiction avec les valeurs qui sont prônées par les jeux de Deck 9. Donc avec par exemple des frictions nombreuses entre l'équipe narrative très diversifiée, volontairement très diversifiée d'un Life is Strange True Colors, et le patron de cette équipe, Zach Garris, donc, que les témoins de Rebecca Valentine décrivent comme une force assez arbitraire et assez contraire au reste des aspirations de l'équipe. Voilà, par exemple, lui n'est pas convaincu par les enjeux de représentation, ce qui est bizarre quand tu travailles sur un Life is Strange. Il est capable de réécrire des bouts de jeu dans le dos de ses subalternes au prétexte que les critiques que ses subalternes ont formulées à l'encontre de son travail à lui, pour lui, elles tiennent de ce qu'il appelle l'idéologie politique. C'est un personnage qui est également dépeint dans l'article comme pas très très clair dans ses relations avec ses collègues féminines, incapable de respecter certaines frontières, toujours bien sûr sous couvert de statut de mentor. Hein. Donc on comprend, voilà, ce besoin de parler à une journaliste comme Rebecca Valentine, quand on se souvient justement que bah, Zach Garris, il était très mis en avant par Deck 9, comme un chevalier du jeu vidéo différent. C'était le visage de ce truc-là à l'époque de Before the Storm, par exemple. Alors que si on en croit justement ces témoignages, tout ce que Before the Storm ou True Colors ont pu réussir sur ces sujets-là, eh bien ce sont des victoires qui ont été arrachées malgré la présence de Zach Garris. L'article contient d'ailleurs une très longue réponse officielle formulée par Zach Garris, parce que c'est comme ça qu'on fait, qui jette d'ailleurs assez allègrement l'équipe narrative de True Colors sous le bus, se pose en sauveur du jeu, et d'un jeu d'ailleurs dont il dit que l'écriture, avant son retour aux affaires, était si pauvre que le jeu risquait l'annulation. Ensuite, il développe un petit peu, il explique en gros que voilà, l'équipe était vraiment pas au niveau, se pose vraiment comme voilà, la force de raison dans toute cette histoire. Le mec a peut-être besoin de petits conseils en PR, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ce sauvetage dont il parle, c'est un moment qui dit beaucoup dans l'article sur la position du management de Deck 9, qui, après avoir demandé à Zach Garris de partir, à cause du grand nombre de plaintes en toxicité à son sujet, l'a rappelé quelques temps plus tard, malgré les protestations d'une partie de l'entreprise, parce qu'ils estimaient que c'était la bonne personne pour finaliser un pitch de jeu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans une autre partie de l'article de Rebecca Valentine. C'est voilà, une longue enquête interne qui a eu lieu pour identifier le ou les membres du studio qui cachaient de potentiels des symboles haineux, tout simplement, dans le jeu durant son développement. Un sujet qui a fait l'objet de nombreuses plaintes en interne, avec réapparition constante de ces symboles alors qu'ils étaient supprimés. Ils réapparaissaient dans le jeu pendant que la direction de Deck 9, elle traînait des pieds pour ne pas avoir à enquêter sur qui était à l'origine de l'introduction de ces symboles en jeu. Et pareil hein, pour les promesses de mettre à jour le règlement de l'entreprise pour clarifier la position du management sur les discours haineux justement, ou bah, la promesse d'implémenter de la formation en interne sur bah, le sujet, sur ce même sujet-là. Donc c'est des discours qui tenus par la direction de la boîte qui n'ont manifestement pas été suivis d'actes. L'article aborde également le cas de Square Enix dans toute cette histoire, et notamment sa branche londonienne qui s'est occupée d'éditer le jeu et qui donc encadrait le développement de True Colors, et dont bah, les méthodes, en tout cas en termes d'édition et de rapport avec les équipes de développement, sont associées par certains témoins entendus par Rebecca Valentine à celles de petits tyrans. C'est le terme qui est utilisé, bully, hein, donc tyran, et qui donc manifestement mettait une très grosse pression sur l'équipe, tout en empêchant le studio de communiquer clairement sur certaines thématiques du jeu. Par exemple, la bisexualité du personnage d'Alex, Square Enix ne voulait pas qu'on communique dessus en amont, et Square Enix aurait, en tout cas une personne de chez Square Enix, aurait dans une réunion à laquelle participaient plusieurs témoins de cet article, expliqué qu'il ne voulait pas que, je cite, Life is Strange soit perçu comme le jeu gay. À part ça, vous avez des gens sur internet qui ont monté un business de l'indignation en vous expliquant qu'il y a un grand complot, un complot financier, et qu'il est devenu difficile d'obtenir un éditeur et un budget de développement si votre jeu n'est pas ouvertement woke, mais Square Enix ne veut pas de jeu gay. Très très gros article bien sûr de Rebecca Valentine, très détaillé, très bien construit avec un ajout régulier des réponses officielles des différentes parties. Square Enix a répondu, non Square Enix n'a pas répondu, Deck Nine a répondu, Zach Guys a répondu, et il me semble qu'il y a encore une autre attente, qui, une autre réponse qui pourrait tomber. Et ça permet de comprendre un peu mieux ce qui peut se passer dans ce genre de studio où certaines personnes, elles vont lutter pour défendre cette différence, cette manière différente de faire des jeux, et également pour défendre les postes des gens qui peuvent porter et continuer à porter cette différence. Ça donne par exemple une anecdote absolument lunaire où une narrative designer du jeu qui s'appelle Mallory Littleton, qui n'a pourtant pas que des bonnes choses à dire sur la manière dont elle dirigeait le studio, elle décide sciemment, on avait parlé, souvenez-vous, de se licencier elle-même plutôt que de licencier deux de ses subalternes qu'elle estime faire partir grosso modo pardon, du futur du studio. Et elle utilise... Alors qu'elle sait qu'elle s'est auto-licenciée, elle sait qu'elle n'a plus que quelques semaines au sein de l'entreprise, elle utilise ces dernières semaines au sein du studio pour cruncher à fond, écrire un maximum, dans l'espoir de laisser à l'équipe qu'elle a préservée à sa place un projet suffisamment solide pour que cette équipe elle puisse écrire le futur de Deck Nine. Donc voilà, je vous mets l'URL de l'article dans la description, comme d'habitude, super article, où on voit effectivement que voilà, ce sont un petit peu toujours les mêmes personnes qui luttent en interne et qui se sacrifient parfois pour qu'un studio, quitte à ce qu'il ait des problèmes encore en interne, parfois extrêmement violents, puisse continuer à porter un jeu vidéo à l'extérieur qui tienne d'autres discours. Et alors effectivement, l'alignement naturel entre ce qui se passe en interne et les jeux, c'est toujours un peu, c'est même le cœur exact de cet article, et c'est bien tout le problème dans le cas de Deck Nine. J'avais dit que je ferais synthétique, mais il faut se dire que l'article, il est immense. Voilà, c'est ça aussi. Vraiment, si vous avez le temps de le lire, si vous avez la possibilité de lire l'anglais, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, j'espère que... Je ne sais pas s'il y a peut-être un moyen d'avoir une traduction française pas trop dégoûtante. Ne la demandez pas à Microsoft. La bonne blague que j'ai déjà faite 10 fois. Mais en l'occurrence, si ça pouvait effectivement vous permettre de le lire, ou en tout cas, et puis d'apporter l'audience que mérite ce genre d'article, et que chez IGN, on n'oublie pas que oui, les gens qui enquêtent actuellement font du travail qui intéresse les gens, c'est des marqueurs importants, c'est des signaux importants pour les groupes médias qui gèrent nos sites de jeux vidéo mondiaux à l'heure actuelle. Ce n'est pas derrière Paywall sur IGN, pas du tout. C'est juste derrière English Wall. Reste quelques petites news. Il y en a des cool et il y en a des moins joyeuses. Mais écoutez, on va faire comme on peut, on va revenir sur un truc extrêmement conso, en parlant des festivités du mois de juin autour du jeu vidéo. Avant, on appelait ça l'E3, mais vous savez, à cette époque-là, j'avais encore des cheveux. Donc les festivités du jeu vidéo en juin, le Summer Game Fest, appelez ça comme vous voulez, eh bien, commencent déjà à se dater. Bah oui, l'air de rien, c'est dans pas très très longtemps. Bah oui, c'est dans pas très très longtemps tout ça. Donc le 7 juin, ce sera le Summer Game Fest, la soirée d'ouverture du Summer Game Fest. Et puis le 10 juin, ce sera l'Ubi Forward en live from LA, car figurez-vous que Ubisoft, eh bien, a décidé qu'ils allaient refaire un petit peu de présentiel, alors peut-être pas avec évidemment du salon, mais en tout cas qu'ils allaient effectivement émettre au moyen d'un vrai dispositif live. Et puis on croit comprendre que chez Ubisoft cette année, il faut mettre le paquet, parce que chez Ubisoft cette année, on va vraiment mettre l'accent à mort sur Star Wars Outlaws, qui sera le jeu de l'année, ou en tout cas le jeu qu'il faudra hyper un maximum. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien Microsoft aura en toute logique son gros showcase également, qui s'appellera du coup j'imagine le Xbox Activision Bethesda Showcase, dans cet ordre-là, dans ces mêmes dates, mais on n'a pas encore la date exacte. Et d'ailleurs, forcément, vu que ça commence à se placer, le business des insiders reprend un peu du poil de la bête. On a par exemple des influenceurs Xbox qui prétendent que le prochain jeu de id Software, donc les devs de Doom, qu'est-ce qui vient de se passer à l'image ? C'est pas grave, les devs de Doom sera dévoilé à ce moment-là, ce qui serait relativement raccord avec les prods, on va dire le cycle des prods récents de id Software. Et puis, d'un autre côté, on a Jeff Grubb qui prétend pour lui que Gears sera également à l'honneur cette année chez Microsoft durant le showcase de juin. Là, encore une fois, ça semble assez logique parce qu'on n'a pas de nouvelles de Gears, en tout cas de la série canon, depuis Gears 5. Ça commence à faire un petit peu longtemps. Du côté de Frostpunk, qui sortira, pour rappel, cet été, eh bien, vous pourrez vous pencher sur une bêta du 15 au 22 avril, donc dans quelques jours à peine, mais malheureusement, elle n'est pas gratuite. Oh là non. Il faudra que vous vous procuriez la version Deluxe. Sur Steam, elle coûte 67 balles, ou 67 balles 50. Et puis, bah, nous, on va surtout essayer de se coller dessus, je sais pas, on va trouver une solution, on va envoyer des mails. S'il y a moyen de vous montrer le jeu, moi, je suis plutôt chaud. Dans les bonnes nouvelles, on a la réapparition du studio néerlandais Vlambeer. Eh oui, Vlambeer était entré dans une sorte de sommeil il y a quelques temps maintenant. Ça fait un bout de temps qu'ils ne sortent plus de jeux. Hein. Vous les connaissez pour Ridiculous Fishing, pour Lufthauser et pour quelques autres jeux. Nuclear Throne, par exemple. Et Vlambeer, donc, le studio de Rami Ismail et de son collègue dont j'ai malheureusement pas noté le nom, ce qui est un petit peu idiot puisque c'est ce collègue, justement, Jan William Nijman, merci beaucoup, qui vient de racheter toutes les parts restantes possédées par Rami Ismail de Vlambeer dans le but de dire, écoute, toi désormais tu es devenu conseiller auprès des petits développeurs, tu cours le monde pour aller faire des talks un petit peu partout, pour défendre une certaine manière de faire du jeu vidéo, moi... Il se trouve que du jeu vidéo, j'en fais encore, j'en développe encore. Et en fait, bah, ce Jan Willem, justement, lui rachète les parts dans le but de devenir seul et unique dirigeant de Vlambeer et bah, peut-être de faire exister le studio. Alors, le faire exister d'abord par la livraison de nouvelles mises à jour pour des jeux déjà sortis. Donc, il semblerait que Ridiculous Fishing DX, notamment, va avoir un nouveau patch. Et ils vont essayer voilà, de... En tout cas, assurer le support client, l'assistance client sur ces jeux-là. Et puis, peut-être effectivement que Vlambeer servira de maison au nouveau jeu de Jan Willem Nijman, sachant que bah, ce jeu pourrait vous intéresser dans la mesure où son jeu avant ça, c'était Minit. Minit que je recommanderais à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est un jeu, un très 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 chouette jeu, et qui aurait, à mon sens, tout à fait effectivement manque un petit peu de bazooka. Mais sinon, ça s'inscrirait dans une philosophie Vlambeer tout à fait acceptable. Donc, Vlambeer, il faut s'attendre à voir peut-être un jour réapparaître le logo comme ça. Et quoi qu'il arrive, même si le studio pour l'instant reste en dormance, la structure financière, la structure légale, elle est prête à ce que puisse sortir un nouveau jeu, un de ces quatre. Voilà, ça c'était pour la bonne nouvelle issue du monde de l'indé. Et puis la mauvaise nouvelle issue du monde de l'indé, je l'ai gardée pour la fin parce que je voulais prendre quand même une minute, ça me semble assez important. La semaine dernière... Le concepteur principal du jeu Storyteller, souvenez-vous, petit jeu narratif dans lequel vous allez assembler des petites illustrations entre elles pour répondre à un titre d'histoire, créer des petites historiettes comme ça. Donc Daniel Benmergui, c'est le créateur du jeu, le co-créateur du jeu. Eh bien, il faisait part sur les réseaux sociaux d'une perte très terrible pour lui, celle de son partenaire de game dev, justement, Jeremias Babini. Et Jeremias Babini est décédé manifestement de manière très brutale, donc c'était pas du tout lié à une maladie, donc ses proches ont été effectivement pris de court. Les deux créateurs argentins, en fait, avaient justement joint leurs forces autour du projet Storyteller, sur lequel Babini avait, en gros, été tout à la fois dessinateur, animateur et beaucoup, beaucoup d'autres choses. En gros, c'était la personne derrière, eh bien, beaucoup de petites scénettes rigolotes, les petites scénettes mignonnes qu'on générait en essayant de reconstituer les petites histoires du jeu. Et sur X, notamment, eh bien, Daniel Benmergui dit de lui qu'il était un illustrateur hors pair, un animateur, un sculpteur, un dessinateur, qu'il brodait magnifiquement, qu'il savait jouer avec les shaders, qu'il avait créé à lui seul un jeu NES qui tournait sur NES, et que pour lui, Jeremias Babini, c'était son De Vinci à lui. On imagine qu'un petit studio comme celui-ci, qui s'est basé énormément sur le fonctionnement en binôme, sur cette très forte symbiose, comment tu continues derrière, surtout quand ton développement a été celui qu'il a été, un développement très long pour un accueil, probablement, j'imagine, un peu plus timide qu'attendu, malgré le support comment s'appelle-t-il, d'Annapurna Interactive. Et il le dit lui-même, hein, Daniel Benmergui, c'est très compliqué de s'imaginer continuer. On n'était pas tout seul, on avait quelques personnes de plus autour de nous. Mais c'est très compliqué de s'imaginer continuer et faire les jeux qu'on avait en tête sans lui. On l'imagine bien sûr sur ces petites structures à quel point ça doit être absolument dévastateur. Voilà, ça n'a pas encore été repris par la presse, cette info, etc. J'ai vu passer sur Twitter et je me suis dit que ça méritait quand même. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont flashé sur Storyteller. On a eu l'occasion d'en parler ici, etc. Et je sais qu'il y a une petite Storyteller Défense Force sur le Discord d'Origami. Voilà, vous avez toutes les infos. Je suis désolé, on termine sur un truc plus lugubre que le reste. Mais voilà, comme ça, on aura fait le boulot correctement. Vous voulez une bonne nouvelle ? Je vais essayer de vous donner une bonne nouvelle. Il y a des streams Origami cette semaine ? Hey ! Donc, vous retrouverez Héloïse cet après-midi, si c'est possible. Hein. C'est encore un petit peu à l'étude, cette idée. Il me semble que Crusader Kings 3 a encore des choses à régler avec Héloïse, et Héloïse a encore des choses à régler avec Crusader Kings 3. Et puis demain à 13h, vous aurez rendez-vous avec Oupi, car le mercredi c'est Oupi, et on va découvrir le jeu auquel il s'adonnera au dernier moment, comme d'habitude. Moi je serai en live demain, peut-être avec Oupi, à 19h tapante, donc je serai en live un petit peu avant pour suivre le Triple I Initiative, donc la première conférence d'un grand parterre d'indépendants avec certains budgets tout de même. Hein. On a là-dedans Evil Empire, on a là-dedans les créateurs de Darkest Dungeon, on a voilà, du sacré monde quand même. 45 minutes, sans pub, sans rien, avec une trentaine de studios dont vous connaissez les créations. Voilà, j'aurais pu dire Vampire Survivor, j'aurais pu dire d'autres trucs comme ça. Des jeux qui ont marché en fait, hein. Juste des gros jeux indés qui ont vraiment bien marché. Et puis jeudi, moi je serai en live à partir de 10h30 pour un 10h30 et pause de midi sur deux jeux. J'aimerais jouer à Turbo Kid et j'aimerais jouer à Botany Manor également. Donc voilà, un manoir, des petites plantes à faire pousser, ça va être très bien. Et puis bah naturellement vendredi, bien sûr. Vendredi c'est l'hebdo à 13h en live comme d'habitude. Et puis ensuite distribué bien sûr via Patreon, puis YouTube et podcast, etc., etc. Je ne vous fais pas encore part du programme de l'hebdo, mais on vous tiendra bien sûr informé en amont. Je crois que j'ai tout dit et je crois que maintenant je peux me taire. Allez ! Ouais ! Breaking the Law, comme dit la chanson. Écoutez, ça m'a fait très plaisir en tout cas de vous avoir avec moi pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo ce matin, même si elle n'était pas particulièrement jouasse, hein, quand on se dit que l'une des meilleures nouvelles de la journée, c'est que finalement les développeurs de Hellblade 2 assument le 30 FPS et ils ont bien raison. Et c'est vrai que j'avais oublié de le dire, mais Konami a augmenté son salaire de base au Japon pour la troisième fois de mémoire récente. Mais si on l'augmente trois fois de suite de mémoire récente, c'est que ça devait partir vraiment, que la barre devait être au sol du sol du sol. J'ai carrément oublié de vous en parler. Bref, on aura l'occasion de refaire un petit point dessus. Prenez grand soin de vous et nous, on se donne rendez-vous bien sûr le reste de la semaine sur Origami. Sachant, pour rappel, qu'à chaque fois dans l'hebdo, vous avez le petit magnéto, hein, ce magnéto de 5 minutes qui revient sur des news un petit peu plus, pas forcément légères, mais plus rapides à explorer. Et ensuite, il est distribué eh bien, dès le vendredi soir sur YouTube, avant même la sortie du reste de l'émission. Prenez grand soin de vous, à très vite, merci pour tout. Et rien, le mec a rien à dire quoi.